Bonjour à tous, je suis très heureux d'être avec vous pour ce congrès. Je dois beaucoup au GBU, il m'a beaucoup apporté quand j'étais GBUcien, et il a aussi été l'occasion de beaucoup d'enrichissement, de réflexion en tant qu'ami, et je suis un ami du GBU très très reconnaissant pour tout ce que le Seigneur m'a permis de vivre dans l'engagement aux côtés des étudiants, et très reconnaissant pour ce que j'ai vécu, entendu hier soir, et ce que je partage avec vous pendant ce congrès. Heureux aussi, bien sûr, de me mettre avec vous à l'écoute de la parole de Dieu. Heureux d'aborder un thème qui nous tient très à cœur, aux uns et aux autres, un thème qui est ancré dans le mot d'ordre du GBU pour cette année universitaire. 2 Pierre 3,18, notre mot d'ordre, « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Quand j'ai connu ce mot d'ordre, j'ai tout de suite pensé qu'il serait très intéressant de le prendre pour donner le ton à notre congrès et pour qu'il oriente le thème. Nous souhaitons tous progresser, aller de l'avant, aller toujours plus loin, plus haut, disons-nous quelquefois. Comme le dit le sous-titre du thème de ce congrès. Mais je vous propose de privilégier les autres expressions que celles que je viens de prononcer, plus haut, lors de la réflexion dans le comité qui cherchait la bonne formulation du titre accrocheur pour ce congrès. Il y avait beaucoup de tentatives avec l'expression « plus haut ». Et la remarque a été faite au sein du comité de préparation que cette expression n'est pas en phase avec le vocabulaire et la symbolique biblique. C'est accrocheur, soit, mais ça n'a pas l'honneur d'être en phase avec le vocabulaire biblique. En fait, il n'y a aucun texte biblique qui utilise cette expression pour nous inviter à progresser. Rapidement, j'ai vite recherché, on trouve plus haut dans l'histoire d'Esdras, simplement pour dire qu'il est à peu près à ma place sur une estrade, quand il lit la parole. Rien à voir avec les progrès spirituels qu'on se souhaite les uns aux autres. On trouve plusieurs fois cette expression plus haut dans les psaumes, dans le contexte guerrier d'un changement de situation entre deux ennemis. On le trouve dans l'épisode très connu de la tentation de Jésus-Christ par le diable. Satan a emmené le Seigneur plus haut pour lui montrer tous les royaumes de la terre, pas pour le faire progresser. Et enfin, on le trouve dans Luc 14, dans l'histoire qui évoque un ami qui nous fait monter à une place d'honneur. C'est tout. L'expression n'est donc jamais utilisée dans le contexte d'une exhortation à progresser, à persévérer, à continuer notre marche avec le Seigneur. Ceci dit, ne soyons pas trop durs avec les mots. Elle ne correspond pas à la symbolique biblique et c'est probablement important de le remarquer. Mais quand nous chantons toujours plus haut, ou quand nous exhortons mutuellement à aller toujours plus haut, à viser toujours plus haut, notre idée peut être juste. Mais soyons conscients qu'elle ne correspond pas à un vocabulaire biblique. Dans les textes bibliques, la hauteur est synonyme d'honneur, que nous ne devons pas rechercher, et d'orgueil, que nous devons fuir. Donc, je ne vous invite pas à aller plus haut. Je vais, dans une première partie, vous proposer de nous mettre à l'écoute de quelques invitations à progresser en découvrant la palette d'images et d'enseignements qui nous exhortent à grandir, à persévérer, à progresser. Ensuite, nous lirons quelques textes qui nous disent clairement où nous pouvons connaître cette croissance et tous ces progrès. dans la proximité et la dépendance du Seigneur, l'auteur de la vie et de toute croissance. Ce n'est qu'en Christ que nous pouvons grandir et progresser. Nous aurons ainsi ce matin fait un premier tour de ces deux mots-clés, progresser en Christ. Demain matin, nous aborderons en troisième et quatrième partie quelques réponses à la grande question du comment, que l'on attend tous souvent, pas sous forme de recettes auxquelles la majorité d'entre vous, je pense, ne croit plus, je l'espère, et la vingtaine de bons livres qui traitent de ce sujet sur la table à votre droite évitent les recettes, mais à la recherche de principes et d'enseignements qui éclairent le chemin du croyant en lui parlant des ressources nécessaires pour continuer son chemin, pour être transformé. Les deux textes bibliques que nous lirons dans les groupes tout à l'heure, en fin de matinée, et le canevas proposé, nous ferons bien sûr déjà réfléchir au comment avant mes remarques de demain matin. Premièrement, les appels au progrès. Mettons-nous à l'écoute de plusieurs textes qui nous appellent à grandir, à progresser, à croître. Et je vous propose un rapide tour d'horizon en cinq groupes. Tout d'abord, les textes qui nous invitent à marcher et à progresser. L'apôtre Paul nous exhorte très souvent à marcher. C'est un synonyme de vivre. Vivre d'une vie normale, c'est aller de l'avant. Ce n'est jamais statique. En écrivant aux Colossiens, par exemple, il leur dit « Marchez d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue. Comme vous avez reçu le Christ Jésus, marchez en lui. » Colossiens 1:10, Colossiens 2:6. Toujours avec la même image, en écrivant aux Philippiens, texte qui sera médité pendant le culte demain, je lis deux versets de l'apôtre Paul. Il leur écrit « Seulement, au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. » Philippiens 3:16, l'apôtre Paul invite les croyants de Philippe, malgré les tensions, les divisions qu'ils peuvent connaître, à marcher d'un même pas. Et il y a une subtilité intéressante deux versets plus tôt. Avec une nuance intéressante, avant d'inviter les Philippiens une fois de plus à marcher dans le Seigneur, l'apôtre Paul, parlant de son rêve, de son objectif, de son élan dans la vie chrétienne, ne parle pas de sa marche, mais de sa course. Philippiens 2,14. Je cours vers le but pour obtenir le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Oui, merci pour la correction. Philippiens 3,14. Je cours vers le but. Philippiens 3,16. Marchons tous ensemble. C'est peut-être un peu difficile à imaginer, mais c'est une nuance très belle. L'apôtre Paul a à cœur de courir pour obéir à son maître et il invite tous ses frères et sœurs à marcher d'un même pas. Et enfin, dans ce premier groupe de textes, 1 Thessaloniciens 4, qui est un des grands chapitres qui nous invite à progresser, qui souligne beaucoup la nécessité des progrès constants dans la vie chrétienne, ce texte associe aussi marche et progrès. 1 Thessaloniciens 4, 1. Au reste, frères, nous vous le demandons et nous vous y exhortons dans le Seigneur Jésus. Vous avez appris de nous comment vous devez marcher et plaire à Dieu. D'ailleurs, vous le faites bien. Eh bien, progressez encore. Marche et progrès qui nous invite à toujours aller de l'avant. Et l'apôtre Paul va souligner cela un peu plus loin, au verset 9, en prenant l'exemple d'un domaine dans lequel les Thessaloniciens sont plutôt bons. L'accueil mutuel et l'amour fraternel. Écoutez bien 1 Thessaloniciens 4:9. Pour ce qui est de l'amour fraternel, vous n'avez pas besoin qu'on vous écrive, car vous êtes vous-même instruits par Dieu en vue de l'amour réciproque. C'est ainsi, c'est aussi ce que vous faites envers tous les frères de la Macédoine entière. Mais nous vous exhortons, frères, à progresser encore. 1 Thessaloniciens 4, progresser toujours et toujours plus. Alors il y a deux regards, à mon avis, sur ce genre d'enseignement, d'exhortation. On peut trouver cela inquiétant, en réentendant que l'on n'aura jamais fini, que le chemin sera toujours encore devant nous à parcourir, et on peut trouver cela un peu décourageant. On ne sera jamais arrivé au but, au bout de nos efforts. Mais l'autre regard que je vous propose, très encourageant, est celui qui nous dit qu'effectivement la vie chrétienne correspond au bonheur d'une vie qui peut toujours connaître mieux. Donc ne vous découragez pas, ne soyez pas fâchés de ce que la parole de Dieu nous invite à progresser là où nous sommes toujours, même si nous faisons bien, même si tel groupe GBU fonctionne extrêmement bien, il est bon et normal de souhaiter qu'il fonctionne mieux. C'est la dynamique de progrès que l'apôtre Paul propose aux Thessaloniciens dans 1 Thessaloniciens 4. Deuxième groupe de textes qui se rattachent à la notion de progrès, les textes qui nous invitent à grandir, à croître. Ils se trouvent dans le mot d'ordre que j'ai cité en introduction tout à l'heure, « Croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ ». Colossiens 1:10, déjà cité parce qu'il parle de la marche, parle aussi de la croissance. Marcher d'une manière digne du Seigneur pour lui plaire à tout point de vue, porter des fruits en toutes sortes d'œuvres bonnes et croissez dans la connaissance de Dieu. Colossiens 2:19, parallèle à Éphésiens 4:16, je ne lis que Éphésiens 4:16, de Jésus-Christ, le corps tout entier bien ordonné et cohérent tire son accroissement grâce à toutes les jointures qui le soutiennent fortement. C'est de Jésus-Christ qu'il tire son accroissement. Et enfin, l'auteur de la lettre aux Hébreux est profondément triste devant ceux qui n'ont pas grandi. Hébreux 5:12, alors que vous devriez avec le temps être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires de la parole de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. La grande tristesse de l'auteur de l'Épître aux Hébreux devant des croyants qui ne se sont pas développés, qui n'ont pas grandi. Troisième groupe de textes, ce qui touche à la construction et au terme qui correspond à un jargon évangélique classique mais qu'il nous faut remettre dans le contexte tout simple de la construction, l'édification, s'édifier. Romains 14, grand chapitre dans lequel l'apôtre Paul nous invite à nous accueillir les uns les autres, à être des faiseurs de paix. Je lis un verset, Romains 14:19. Recherchons ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Voilà une autre image qui nous invite à des progrès avec l'image de la construction, de l'édification. 1 Corinthiens 14:26. Essayez de faire pas mal de choses en relation avec l'édification. Coucou, c'est pas ça. Que tout se fasse pour l'édification. Les congrès, les études bibliques, les temps entre amis, que tout se fasse pour l'édification. L'apôtre Paul, en écrivant aux Corinthiens, fait des progrès et de la marche en avant un but de tous les instants. Il y en a d'autres, je m'arrête là pour respecter les horaires. Quatrième groupe, être fort. Paul écrit à Timothée, à son jeune ami, que Paul a à cœur d'encourager pour qu'il enseigne la parole de Dieu, la fasse connaître. Et nous connaissons bien ce verset de 2 Timothée 1:7. Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. N'aie donc pas honte, va de l'avant. 2 Timothée 2:1. Toi donc, mon enfant, fortifie-toi dans la grâce qui est en Jésus-Christ. Notre mot d'ordre nous invite à croître dans la grâce. L'apôtre Paul a dit à Timothée, fortifie-toi dans la grâce. Et là, nous sommes quelquefois peut-être inutilement gênés avec cette notion de force. Il y a apparemment dans nos têtes un conflit entre l'humilité qu'il nous faut connaître, l'humilité qui est une attitude incontournable pour être dans une attitude juste devant Dieu et devant nos frères et sœurs, et nous pouvons oublier que la force a bel et bien sa place. Oui, nous voulons des groupes GBU où l'humilité se développe. Je souhaite des églises où l'humilité a plus de place. Je visite beaucoup d'églises. Je suis à Cartan visiteur d'église dans l'union où je travaille. Et je ne vous surprendrai pas, mais c'est très triste, si je vous dis qu'avec plus d'humilité, dans les conseils d'église et dans les églises, j'aurai beaucoup, beaucoup moins de travail. L'humilité fait grandement défaut dans beaucoup de situations qui s'enveniment et qui se compliquent. Certes, nous voulons nous souvenir que nous sommes petits et dépendants du Seigneur. Mais ce matin, j'aimerais vous dire, on nous a invités à chanter fort tout à l'heure et à le dire encore plus fort, j'aimerais vraiment vous souhaiter d'être des GBUciennes et des GBUciens forts et que vos groupes locaux soient forts et que ce congrès nous rende forts parce que Dieu veut que nous soyons en forme même avant d'avoir participé à un camp qui met en forme. Mais cela peut y aider, et cela peut nous faire beaucoup de bien. Oui, Dieu veut que nous soyons forts. Et c'est une autre image, celle-ci très biblique. S'il n'est pas question d'être plus haut dans le vocabulaire biblique, il est clairement question d'être plus fort. Et enfin, cinquième et dernier groupe, dans ma classification proposée, beaucoup de textes nous invitent à porter du fruit, à mûrir nous-mêmes, à atteindre la maturité. Une des images peut-être les plus riches d'application et d'enseignement. Je me contenterai ce matin, pour l'instant, d'évoquer 3 grands textes. J'en lirai 2 dans la deuxième partie et le troisième sera pour demain. J'évoque donc 3 grands textes qui nous enseignent à porter du fruit et qui nous invite à rêver devant ce que Dieu veut pour nos vies. Le premier, dans l'Ancien Testament, le psaume 1. Ce bel arbre qui introduit tout le psautier est l'image du croyant tel qu'il devrait être, du croyant heureux, en particulier remarqué parce qu'il porte du fruit en sa saison. Psaume 1, l'image du progrès de cet arbre qui porte du fruit. Deuxième grand texte que j'évoque sans le lire, Jean 15. Quelques heures avant sa mort, Jésus est avec ses disciples. Dans la chambre haute, il leur a lavé les pieds et il leur dit beaucoup de choses très profondes en leur disant au revoir. Il leur annonce ce soir-là qu'ils ne pourront jamais porter du fruit, eux, sarments, s'ils ne sont pas solidement attachés au cep qu'il est, lui, Jésus-Christ. Nous y reviendrons dans un instant. Troisième grand texte que je vous laisse et que nous méditerons plus à fond demain, Galates 5, 22. Le fruit de l'Esprit, ah, je ne peux pas m'empêcher de le citer, qui est amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur, maîtrise de soi. Waouh ! Le fruit de l'esprit, un texte qui devrait constamment nous faire rêver, nous garder tendus vers le but. Les progrès du chrétien sont encore ici, évoqués avec l'image du fruit qui se développe. Voilà, me semble-t-il, cinq grands groupes d'images, de textes qui nous invitent à aller plus loin. Premièrement, marcher, progresser. Deuxièmement, croître et grandir. Troisièmement, construire, édifier. Quatrièmement, être fort. Cinquièmement, porter du fruit, aller vers la maturité. Après ce rappel de quelques images et expressions clés, à mes yeux, qui nous exhortent à progresser, regardons maintenant de plus près quelques textes qui nous disent où cela peut se passer. Dans ma présentation, je fais une distinction entre le « où » que j'évoque dans les 10 dernières minutes ce matin et le « comment » que je garde pour l'heure de demain. Regardons où la croissance est annoncée, en particulier dans deux textes que je viens d'évoquer. Psaume 1 et Jean 15. Psaume 1 que je lis maintenant. En cherchant à répondre à cette question, où dois-je être? Où est-ce que ça va se passer? Demain, nous essaierons d'être plus pratiques, plus concrets, mais comment ça va bouger en moi? Comment je vais vraiment aller de l'avant? Mais écoutons encore ce matin où cela va se passer. Psaume 1, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas sur le banc des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans la communauté des justes. Mais l'Éternel connaît la voie des justes. Mais la voie des pécheurs, elle, mène à la perdition. Quel est l'enseignement principal de ce psaume qui introduit 150 poèmes tellement proches de notre vie de tous les jours? Quel est l'enseignement principal de ce premier psaume? Le bonheur de celui qui est bien en vie, qui porte du fruit. Pourquoi? Parce qu'il est enraciné au bon endroit. C'est aussi simple que cela. Et sans trop répondre au comment, nous sommes de toute évidence devant un élément de réponse important. Nous savons où il faut aller, avec qui il nous faut passer du temps, en qui il nous faut être enraciné. Le texte parallèle de Josué 1 enseigne à Josué que ce livre de la loi ne doit pas s'éloigner de lui, de sa bouche. C'est là qu'il doit rester, le livre de la loi près de lui et Josué près de ce livre. Et tu réussiras. Deuxième grand texte que j'ai évoqué tout à l'heure, et j'en lis quelques versets maintenant, Jean 15. J'espère que vous avez déjà été dans votre vie ou que vous serez ce matin profondément étonnés. Sinon, nous passons à côté, je pense, de l'enseignement. Jésus dit quelque chose de très étonnant. Jean 15, verset 1, « Moi je suis le cep et mon père le vigneron. Tout sarment qui est en moi, qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il le purifie afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes émondés, purifiés, à cause de la parole que je vous ai annoncée. Demeurez en moi, comme moi en vous. De même que le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure sur le cep, de même vous non plus, si vous ne demeurez en moi. Moi, je suis le cep, vous les sarments. Celui qui demeure en moi comme moi en lui porte beaucoup de fruits, mais sans moi, vous ne pouvez rien faire. Quelle est la pointe de cette illustration que le Seigneur donne à ses disciples en leur disant au revoir dans la chambre haute? Un sarment attaché au cep vit, la région est belle pour méditer cela, un sarment détaché, arraché, coupé du cep meurt. C'est surprenant comme c'est simple. Je vous ai dit tout à l'heure que je nous souhaitais d'être étonnés. C'est un texte connu. Mais attention, ne le lisons pas trop vite. Jésus ne dit pas simplement que sans lui nous aurons du mal, que nous allons un peu ramer. Il dit que nous ne pouvons rien faire. On peut être bon musicien, on ne pourra rien faire. On peut avoir suivi des camps GBU, une école biblique, une faculté de théologie. Qu'est-ce qu'on pourra faire sans lui? Rien. J'espère que vous êtes étonnés. C'est pas que ça va pas bien marcher. C'est pas que ça va être bancal. Qu'est-ce que je peux faire pour le Seigneur et pour les autres? Quel est le bien que je peux faire indépendamment de Jésus-Christ, avec toute la longue expérience de GBUciens et d'amis du GBU qu'est la mienne? Rien. Waouh. Cela doit commencer à répondre à notre désir d'aller de l'avant. Et je voudrais très simplement, du fond du cœur, dire un grand merci au Seigneur. Parce que depuis 6 mois que Paul King, Daniel Zimmerlin m'ont parlé de ce thème, le Seigneur m'a fait la grâce d'expérimenter des choses nouvelles dans ma vie. J'ai dit 2-3 fois ce matin, c'est simple, mais j'aimerais vous dire, ça marche. C'est en Christ qu'il nous faut être. Le psaume 1 le dit, Jean 15 le dit, Éphésiens 4, que nous lirons tout à l'heure dans les groupes, le dit. En disant la vérité avec amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est la tête, Christ. C'est lui qui a donné les uns avec certains dons, les autres avec d'autres dons. C'est en lui qu'il nous faut être. Proche de lui, dépendant de lui. C'est là que nous allons chacun et ensemble croître et nous développer. Être en Christ, être attaché au cep, être enraciné à côté du ruisseau. Vous reconnaissez Éphésiens 4, Jean 15 et Psaume 1 dans l'autre ordre. D'accord. Mais plus pratiquement, ça veut dire quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui va se passer en moi? On verra ça demain. Pour ce matin, souvenons-nous que la vie chrétienne est un mouvement sans fin vers la maturité. Vous n'aurez jamais fini d'être plus fort avec le Seigneur. Jamais. Souvenons-nous de ces nombreux appels qui nous tirent vers la maturité et vers la force. Et souvenons-nous, ce qui a été le deuxième point de ma présentation, qu'il n'y a qu'un lieu, qu'un contexte dans lequel nous pourrons nous reposer la question du comment, c'est la proximité du Seigneur. Nous ne pourrons jamais nous passer un seul instant, pour une seule étape, pour un seul pas de Jésus-Christ, de sa bonté qui se renouvelle chaque matin et de son œuvre mystérieuse en nous. Jamais un congrès GBU ne sera assez bien organisé pour qu'il puisse nous faire du bien sans que Dieu lui-même, dans sa grâce, ne touche chacun de nos cœurs. Prions. Oui, notre Dieu, notre Père, nous voulons encore te bénir ce matin pour ta parole qui éclaire notre chemin. Des textes que nous avons peut-être beaucoup lus, tu sais les utiliser, tu peux les utiliser pour nous parler d'une façon très nouvelle, pour nous rafraîchir, pour nous remettre à niveau, pour nous renouveler, nous transformer de l'intérieur. Seigneur, nous le voulons. Nous sommes en partie venus à ce congrès parce que nous voulons nous encourager les uns les autres à progresser en toi. Seigneur, nous te bénissons pour ta parole qui est lumière, pour ta parole qui est vraie, qui est honnête, qui est juste. Et nous te bénissons parce qu'elle nous enseigne qu'en toi, nous avons tout pleinement. Seigneur, je te demande pardon pour les heures, le temps, les forces perdues, parce que j'ai cru que je pouvais faire deux, trois petites choses sans cultiver ma relation avec toi. Et Seigneur, nous te bénissons parce que tu es tellement bon que nous pouvons toujours revenir à toi et qu'ensemble ce matin nous pouvons te dire, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous voulons aller de l'avant en apprenant à recevoir de toi tout ce dont nous avons besoin. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen.